Bonjour, docteur Lagacé.
Bonjour.
J'espère que ça va très bien de votre côté.
Oh, ça va pas trop pire. Tu sais, les chiffres commencent à descendre un peu, alors on voit un peu de lumière au bout du tunnel, puis là, on a des vaccins, alors 2021 va peut-être être un peu mieux.
Oui, bien, c'est certainement des bonnes nouvelles en voyant ces chiffres baisser de jour à jour. On voulait jaser ensemble parce qu'en ce moment, les gens, ils ont toutes sortes de questions par rapport à l'administration des vaccins contre la COVID-19 en ce moment, comment ça se déroule au Manitoba. Il y en a qui trouvent que le tout se déroule un peu trop lentement. Puis là, nous, on se demande, est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que ça prend du temps pour administrer tous ces vaccins ici au Manitoba? Selon vous, est-ce que ça devrait être fait de façon plus accéléré?
Ben, moi, je n'ai pas trop d'inquiétude au sujet de la vitesse à laquelle la distribution prend place. Il faut se souvenir que le facteur qui limite vraiment la distribution des vaccins ici au Manitoba, comme le reste du monde, en effet, c'est la disponibilité des vaccins par des compagnies qui les produisent. Alors, ces compagnies-là, évidemment, ils essaient de distribuer à tous les pays avec lesquels elles ont des contrats. Mm-hmm. Et puis, il y a une limite à ce qu'elles peuvent distribuer. Ce que je vois de mon côté, moi, c'est des 1 000, 1 500, 1 600 personnes qui peuvent être vaccinées par semaine au mois de janvier. Si tu considères que ça fait presque pas plus que 5 ou 6 semaines qu'on a commencé la vaccination, c'est en effet assez remarquable qu'on a réussi à faire ça dans une telle période de temps. Je suis très confiant qu'au courant des prochaines 2, 3, 4 semaines, on va commencer à augmenter la distribution autant qu'on peut continuer à recevoir des vaccins des compagnies.
Alors, docteur, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que c'est uniquement une question de quantité de vaccins. C'est pas une question de processus de vaccination.
Je dirais que c'est pas uniquement un problème de la distribution ou de la disponibilité du vaccin. Il y a d'autres facteurs, mais c'est certainement le plus grand facteur. Moi, je me suis fait immuniser lundi dernier et puis je suis allé au centre de congrès, là, où ils ont leur super centre. Mm-hmm. Et puis c'est très, très efficace comme ils font ça. Il y a une trentaine de stations. Ils pourraient certainement faire beaucoup, beaucoup plus d'immunisation qu'ils font. Alors, okay. C'est certainement pas là la limite. Mais j'ai trouvé que la procédure pour obtenir un rendez-vous était un peu arriérée, que ça prenait beaucoup de temps à faire ça. Puis je suis certain qu'il y a des gens qui ont abandonné, qui se sont dit que ça prend trop de temps à faire un rendez-vous, je vais attendre. Alors, il y a certainement des améliorations qui peuvent se faire au niveau de faire le rendez-vous. Mais une fois qu'on est rendu là, c'est allé très, très, très bien. Alors, il y a peut-être deux niveaux qu'on peut améliorer. Mm-hmm.
Moi, je me demandais aussi, est-ce qu'on pense peut-être qu'il y a en ce moment un manque dans le personnel, par exemple les infirmiers et infirmières qui, eux, sont ceux qui vont administrer le vaccin. Est-ce qu'on voit qu'il y a peut-être beaucoup d'absences à cause de maladies? Puis ça peut aussi causer un ralenti?
Oui, ça pourrait causer des délais. Alors, peut-être ce qu'il faudrait aussi considérer, c'est qu'il faut avoir un plan en cas de maladie parmi les administrateurs de vaccins. Ce que je comprends, c'est que la province aussi essaie de distribuer la tâche de vaccination à d'autres groupes. Alors, d'enseigner aux pharmaciens de se servir de ce vaccin-là, qui est assez unique. Le vaccin Pfizer, c'est pas comme tous les autres vaccins. Il y a certains critères qui le fait beaucoup plus difficile à manipuler. Alors, il y a un entraînement qu'il faut faire pour être capable d'augmenter le nombre de gens qui peuvent le faire, mais et la province le fait, en effet, mais c'est juste je pense qu'on s'attend vraiment peut-être à plus qu'on est capable. Alors, il faut juste un peu de patience.
Ouais, d'accord.
Je pense que tout le monde est excité là pour que ça se passe.
C'est ça, avec bonne raison. Alors, ouais. Je peux comprendre qu'on a un vrai désir d'accélérer ça plus, mais il faut se souvenir aussi que c'est très critique de le faire de la bonne façon. Avec ce vaccin-là, c'est pas juste mettre une aiguille dans une bouteille, en sortir un peu, puis le mettre dans un individu. Il faut qu'il soit surgelé à moins 80. Quand on le dégèle, il faut faire très attention de ne pas le secouer. Il y a toutes sortes d'étapes à faire. Et c'est un peu plus compliqué que je pense que les gens ont vu avec les vaccins de leurs enfants. Et tu rentres au pédiatre, tu te fais vacciner, c'est tout fini, c'est très rapide. C'est un peu plus compliqué. Pas beaucoup, mais mm-hmm. Ça prend des étapes pour s'assurer que ça soit bien fait. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a tendance à comparer, le Manitoba est à telle position à comparer à l'Ontario, au reste du Canada. Mm-hmm. C'est vrai qu'on peut améliorer à ce niveau-là. c'est vrai que moi, je crois que notre système de rendez-vous était un peu difficile et ça a peut-être contribué au délai. Alors, au Manitoba, il faut vraiment améliorer ça. Il faut avoir un système en ligne pour faire des rendez-vous, pour être capable de s'assurer qu'on touche à tous les gens qui sont éligibles pour le vaccin. La géographie au Manitoba est un peu difficile aussi avec les communautés isolées au nord qu'il faut distribuer des vaccins qui sont quand même assez difficiles à surgeler.
Ouais, non, c'est vrai. Il y avait aussi toute la question de savoir qu'il y avait encore beaucoup de doses qui sont dans les congélateurs comparé à ceux qui ont déjà été administrés. Il y a des gens qui pensent que ça reste longtemps juste là dans le congélateur puis que on n'y accède pas assez.
Ben, ça a été un commentaire même de notre premier ministre Trudeau qui ouais. disait il y a trop de doses dans les congélateurs puis pas assez dans les bras des patients.
Ben, et il y a une certaine, c'est certainement, quelquefois, il faut accepter que la critique est méritée. Mm-hmm. Mais aussi, il faut voir que, comme j'ai dit, il y a peut-être des défis que le premier ministre ne comprend pas tout à fait en termes de distribution, particulièrement dans les provinces où il y a une géographie complexe et diverse.
Ouais.
Aussitôt qu'on est capable d'avoir un centre d'immunisation à Brandon, tu vas voir, ça va commencer à augmenter assez rapidement. Aussi, au Manitoba, au début, quand on a commencé la distribution des vaccins, on voulait s'assurer d'avoir la deuxième dose en tout temps. Alors, on gardait cette dose-là. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être la mauvaise idée. On a commencé à enlever ça pour s'assurer qu'on mette plus de premières doses en anticipation que les deuxièmes doses vont arriver au fur et à mesure au courant des prochaines 3 semaines. Alors, il y a un délai de 3 semaines qu'on peut attendre. Mm-hmm. Et juste aujourd'hui, on a fait l'annonce au Canada que on peut considérer un délai de courte durée. Alors, au lieu de faire 3 semaines, on peut augmenter ça d'une courte durée pour s'assurer d'être capable d'immuniser le plus grand nombre de personnes possible avec la première dose. Parce que malgré qu'elle n'est pas aussi efficace que la deuxième dose, elle nous donne certainement un certain niveau de protection qu'on pourrait étendre à un plus grand nombre de gens.
Alors, ça serait favorable de vacciner le plus de monde possible, au moins avec une première dose, et après revenir avec une deuxième dose au lieu de...
Au lieu de les garder pour juste faire pour
la deuxième dose.
Ouais. C'est, si j'avais la réponse à cette question-là, on me paierait beaucoup plus. alors, c'est vraiment un défi. Les recherches nous ont pas quand même indiqué quel choix faire. Alors, évidemment, on a une meilleure protection avec 2 doses, mais on a un étang de protection beaucoup plus grand avec une seule dose. Alors, je pense que ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de faire des recommandations qui peuvent accommoder différentes stratégies provinciales. Alors, peut-être au Québec, où il y a beaucoup d'éclosions dans les centres de santé pour les aînés, c'est vraiment important de protéger ces gens-là avec la plus grande protection possible. Alors, on va faire les 2 doses dans ce groupe-là.
Mm-hmm.
Mais dans les gens où il y a moins grand risque de maladies sévères, peut-être c'est beaucoup plus important de vacciner un plus grand nombre. Alors, c'est bon d'avoir un peu de flexibilité, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi la meilleure stratégie parce que les études nous ont pas révélé ça encore.
Parlant d'études, j'aimerais vous entendre sur la sécurité du vaccin parce qu'il y a beaucoup de monde, peut-être de moins en moins, mais il y en a quand même beaucoup qui se disent « Ah, oh, moi, je vais attendre que les gens reçoivent leur vaccin parce que j'ai peur du vaccin. » Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Est-ce qu'il y a un travail nécessaire pour convaincre les gens que c'est bien de se faire vacciner?
Oui, ben il y aura toujours un travail pour ça parce qu'il y a toujours un groupe de gens qui hésitent de se faire vacciner pour diverses raisons. Puis la grande majorité d'entre eux qui sont hésitants de se faire vacciner, c'est un manque de compréhension de ce que les effets secondaires sont en vérité. Alors ils voient souvent des effets secondaires qui sont annoncés à l'internet, qui s'est pas prouvé, c'est toutes sortes d'histoires. Alors ça fait peur. L'inconnu va toujours évidemment faire peur. Alors tant qu'à moi, la meilleure stratégie de convaincre ces gens-là, c'est en premier lieu de s'assurer qu'on explique c'est quoi les effets secondaires. Et avec ce vaccin-là, les vaccins qui sont disponibles, il y en a, c'est certain. T'auras mal au bras, c'est presque certain. Il y a certainement, avec le vaccin Pfizer, un peu plus d'incidents d'allergie au vaccin qu'on s'attendait. On reconnaît ça maintenant, évidemment, et on a pris des précautions pour réduire le risque. C'est pour ça qu'on annonce qu'on ne devrait pas se faire vacciner si on a des allergies au vaccin. Il y a toutes sortes de précautions pour ces risques qui sont réels. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de, de risques que les gens annoncent. C'est vraiment effectivement des histoires qu'on annonce d'une personne à la prochaine, que sa sœur décède, son cousin, son ami.
Ouais.
Et puis c'est vraiment, il faut retourner aux preuves ou aux gens qui sont des experts. Au fur et à mesure qu'on explique les effets secondaires d'une façon honnête, qu'on explique les effets qu'on annonce qui sont effectivement des histoires, sont effectivement juste des histoires, qu'on offre des preuves. Une des choses que moi j'ai trouvé est très efficace, c'est d'assurer les gens que toutes les preuves, les études qui ont été faites sur ces vaccins-là, c'est les mêmes qui ont été faites sur d'autres vaccins. On n'a pas vraiment pris de raccourcis. On avait la chance de mettre beaucoup d'efforts dans ces vaccins-là. Il y avait beaucoup de COVID-19, alors c'était assez facile de recruter des gens qui allaient devenir malades pour prouver que le vaccin était efficace. On a vacciné des dizaines de milliers de personnes dans les études pour s'assurer que les effets secondaires les plus communes, c'est-à-dire moins que 1 sur 50 000, plutôt que 1 sur 50 000, seraient connus. Est-ce que ça veut dire qu'on a éliminé absolument tous les risques? Non, évidemment, s'il y a des risques qui sont même plus rares que ça, on les reconnaîtra seulement au fur et à mesure qu'on commence à immuniser la population. Et ça, c'est moi qui est honnête. Mais il y a beaucoup de risques qu'on prend dans la vie quotidienne qui sont plus grands que ça. Alors, il faut pas oublier ça. On conduit notre voiture à chaque jour et puis on prend des risques comme ça aussi, même malgré qu'on ne le croit pas.
Ouais. Ben, dans cette pandémie, on sait qu'on apprend au fur et à mesure là, avec toute la gestion de province à province comment survivre à travers cette pandémie. J'espère juste que dans le futur, si jamais il y a une autre pandémie qui arrive, ben qu'on ait des stratégies de base au moins qu'on pourra suivre puis aller à travers de ça plus rapidement.
Ben oui, ben le défi avec les pandémies, évidemment, les pandémies les plus sévères comme celle-ci, elles ont tendance heureusement de seulement arriver une ou deux fois chaque centaine d'années.
Mm-hmm.
Alors on oublie assez rapidement après que c'est passé, que c'est arrivé, puis comment est-ce qu'on s'est senti à ce temps-là.
Ouais.
Alors moi aussi j'espère qu'on a appris beaucoup, qu'on continuera à apprendre beaucoup. Mais en même temps, j'espère qu'il n'y en aura pas une pour 100 ans.
Oh, ouais, mon Dieu.
D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on a assez confiance au processus, puis qu'éventuellement, ben, ça va finir par accélérer.
Mal en général. C'est ça ma position. Ouais. Il y a certainement une place pour de l'amélioration. Moi, mon expérience, c'est qu'il faut vraiment améliorer le système de rendez-vous parce que ça, c'est... En particulier, aussitôt qu'on commence à immuniser des dizaines de milliers de personnes par semaine ou par deux semaines, les systèmes qui sont en place maintenant sont complètement comblés. Alors, ça va être la limite, ça. On pourrait recevoir des centaines de milliers de vaccins demain, mais je t'assure que les rendez-vous ne seront pas faits parce que le système de rendez-vous n'est pas là.
Mais il y en avait qui avaient même suggéré qu'on demande peut-être à de l'appui du militaire, des gens qui ont de l'entraînement sur cette gestion-là de coordonner des rendez-vous et tout, puis qu'on laisse tous les autres membres de soins de santé à faire que la vaccination. Est-ce que ça, c'est peut-être une approche qui vous intéresse?
Ça serait une approche, puis une approche, je pense, qui serait particulièrement efficace dans les régions plus isolées du Canada, les territoires du Nord-Ouest, le nord du Manitoba, le nord du Québec, etc. Je crois que dans les situations urbaines, on a assez accès à des gens qui, en premier lieu, qui cherchent du travail, en deuxième lieu, qui seraient capables d'apprendre assez rapidement comment faire ça. Et puis en masse de gens qui ont des connaissances en informatique, qui seraient capables de gérer un système en ligne et un système en ligne, un système sur téléphone. Il faut une combinaison de systèmes. Je pense que la capacité aussi dans les villes en particulier est bien là déjà. C'est juste qu'il faut en prendre davantage. Et puis, de cette façon-là, on pourrait réserver le militaire pour les situations plus idéales à ce système-là, le militaire, les régions isolées, où ce que les gens de Winnipeg ne voudront probablement pas aller.
Oui, certainement. Ben, Dr. Philippe Lagacé-Wins, merci beaucoup pour votre temps et tous les détails que vous nous avez partagés aujourd'hui.